France Musique.
Le journal Olivier Doré. Bonjour Olivier.
Bonjour Jean-Baptiste, bonjour à toutes et à tous. Dernier jour de campagne électorale au Burkina Faso. Dimanche, les citoyens de ce petit pays d'Afrique de l'Ouest devront choisir un nouveau président et désigner leurs députés. Mais les bureaux de vote ne pourront pas ouvrir partout. Le Conseil constitutionnel l'a d'ailleurs officiellement reconnu à cause des groupes djihadistes qui ont semé la terreur dans une partie du territoire et poussé des centaines de milliers de personnes à fuir leur foyer. Des déplacés qui s'entassent aujourd'hui dans des camps de fortune. Dans la ville de Kaya, dans le nord du pays, ils sont 300 000 dans ce cas. Sur place, c'est un reportage de notre envoyé spécial, Nathanaël Charbonnier.
Ici à Kaya, tous racontent la même histoire, celle des aiguilles du temps qui un jour s'arrêtent.
L'attaque a eu lieu le 25 juillet 2020 dans notre village qui s'appelle Diblo.
Et Mokhtar de fermer les yeux pour raconter comment les djihadistes ont tué 20 personnes de son village.
Moi, mon propre grand-père même, il est tombé devant moi. Si on te trouve, on ne te laisse pas. Tu es cadavre.
Tous racontent cette même histoire du temps qui se fige. Nous sommes juste un peu plus loin, dans un autre village. Et cette fois, c'est Amema qui raconte sa peur.
Ça a commencé chez eux là-bas, qu'ils ont tué elle, son grand frère. Et ils ont eu peur. Et elle a commencé à courir aussi. Que comme c'était la nuit, elle ne pouvait pas voir les gens comme ça.
Femmes, hommes, tous porteront encore longtemps cette même histoire, y compris cette centaine d'enfants sagement assis sous cet arbre avec leurs professeurs.
Ce sont des enfants qui ont eu des difficultés. Certains ont vu leurs parents qu'on a tués. Il faut un enseignement particulier pour pouvoir les réinsérer dans la société.
Et c'est cela aussi l'un des enjeux de l'élection présidentielle, faire que ce million de déplacés burkinabés surmonte les épreuves du djihadisme et qu'enfin, tous puissent rentrer chez eux.
Reportage signé Nathanaël Charbonnier. La Géorgie confirme la victoire de Joe Biden. Après un recomptage des voix à la main, les autorités locales valident la légère avance du candidat démocrate dans cet état clé des États-Unis. Mais pour l'instant, Donald Trump refuse toujours, lui, de reconnaître sa défaite. Comment rétro-pédaler et changer de stratégie sans se renier totalement? Exercice pour le moins délicat en Suède, où les autorités multiplient cette semaine les annonces synonymes de revirement s'agissant de la gestion de la crise sanitaire. Les rassemblements publics sont ainsi limités à 8 personnes désormais. Les visites dans les maisons de retraite sont maintenant interdites et il y aura bientôt un plan national de vaccination. Reste la question des masques. Rien d'obligatoire pour le moment, mais les pressions sont aujourd'hui de plus en plus fortes. Frédéric Faux.
Selon Anders Tegnell, épidémiologiste et architecte de la stratégie suédoise contre le coronavirus, mal porter un masque peut avoir un effet pervers et accroître les contaminations. Le masque peut donner un faux sentiment de sécurité qui fait oublier la distanciation physique. Et surtout, les preuves scientifiques de son efficacité seraient trop faibles. Mais il est de plus en plus seul à le dire. L'OMS, qui explique depuis des mois que le masque est utile, a rappelé cette semaine qu'il pourrait aussi l'être en Suède, notamment dans les lieux où les distances ne peuvent pas être respectées, comme les transports. Mais le coup le plus fort a été porté ce jeudi par la prestigieuse Académie des sciences, qui décerne certains des prix Nobel. S'appuyant sur les plus récentes études, elle assure qu'une bonne ventilation et le masque peuvent réduire la propagation de l'infection. Et ce, d'autant plus que l'hiver approche. Des arguments qui commencent à convaincre les habitants des grandes villes de plus en plus nombreux à porter le masque, même sans recommandation.
En France, en matière de recommandation, on retiendra cette supplique du ministre de la Santé qui demande à tous les Français de poursuivre leurs efforts le temps nécessaire pour, dit-il, casser l'épidémie et vaincre le virus. Le gouvernement veut également que des tests aient lieu chaque semaine désormais dans les EHPAD. Un gouvernement qui reçoit aujourd'hui les représentants des commerçants après les annonces des géants de la distribution d'accepter de reporter d'une semaine le Black Friday. Le patron d'Amazon France l'a clairement évoqué hier soir sur TF1. La preuve que la pression politique peut payer pour les syndicats. Écoutez sur ce point la réaction de Laurent Dégouzet, il représente la Fédération Sud Commerce, en charge justement du suivi d'Amazon. Il répond à Fabien Cazot.
Il faut croire que ça résulte avant tout de la pression politique du gouvernement. Amazon, d'une certaine manière, la direction commence à comprendre que, bah voilà, elle n'est pas au-dessus des lois, elle n'est pas au-dessus des autres. C'est une période de confinement, elle a des inconvénients pour tout le monde, telle ou telle entreprise, etc. Donc, vaut mieux une inflexion que une société qui reste, on va dire, droit dans ses bottes ou dans le déni, comme on l'avait vu dans le cadre du premier confinement, où on nous assurait que les conditions de sécurité étaient optimales dans ces entrepôts, alors que un juge à deux reprises a dit que c'était pas le cas, quoi. C'est pas parce qu'on est leader que c'est un passe-droit, au contraire. On voit pas pourquoi Amazon ferait exception à la règle et ne ferait pas à son tour des efforts.
Et puis recadré par Matignon, Gérald Darmanin va déposer un amendement pour assouplir l'article 24 de la proposition de loi sur la sécurité globale, article débattu cet après-midi à l'Assemblée. Le syndicat national des journalistes, le SNJ, réclame lui la suppression pure et simple de ce texte, très contesté par la profession et par les défenseurs des libertés publiques. De la neige sur les Alpes du Nord à partir de 1200 mètres. Quelques flocons sur le massif central et sur le Jura. Le temps sera calme sur l'ouest. Il fera beau sur les bords de la Méditerranée. Les températures iront cet après-midi de 7 à 18 degrés, Jean-Baptiste Urbain.
C'était le journal d'Olivier Denré. Retour de l'information à 13h. À bientôt, Olivier.
Bon week-end à vous.
À réécouter sur francemusique.fr.